Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Question-réaction 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Christophe Castaner, bonjour.
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 Et bienvenue. En employant le terme « emmerder les non-vaccinés », Emmanuel Macron a dit vouloir créer un électrochoc, envoyer un message aux 5 millions de Français qui refusent toujours le vaccin. Le résultat, on a pu le voir ce week-end, le nombre de manifestants anti-pass vaccinal et ou anti-vaccination a été multiplié par 4 dans les rues de France. Ce sont 100 000 personnes qui ont manifesté, parfois au cri de Macron, on t'emmerde. Tout ça pour ça, Christophe Castaner.
Le résultat, c'est quoi? C'est une dynamique vaccinale qui se poursuit et qui a atteint pour les primo-vaccinés un record la semaine dernière. Je crois qu'il faut cesser le mauvais procès. Le président de la République a dit des choses clairement et il a dit effectivement que nous avions une méthode de gestion et de combat contre la Covid qui était celle de faire porter l'effort au maximum sur les non-vaccinés. Et quelque part, parce qu'il est aussi le président de tous les Français, de pousser les non-vaccinés à la vaccination. Et c'est cela dont on parle. Ça a marché la semaine dernière sur le fait que depuis septembre, c'est chaque jour des records battus pour les primo-vaccinés. Et c'est essentiel parce que, je le rappelle, la vaccination est plus importante que le débat sémantique ou les petites polémiques. La vaccination, c'est ce qui protège d'abord les Français. C'est ce qui protège notre système hospitalier. C'est ce qui protège notre société.
Ce matin, l'ancien directeur général de la santé, épidémiologiste William Dabb, dans une tribune au Monde, dit la chose suivante. Insulter les non-vaccinés, c'est un mauvais service rendu à la santé publique. Leur dire « j'ai envie de vous emmerder » n'incitera personne à la vaccination. Au contraire, il n'y a aucune chance que la stratégie présidentielle soit gagnante sur le plan sanitaire. C'est un médecin qui le dit. Vous répondez quoi ?
D'abord, je ne vais pas commenter les propos d'un médecin. Sur des propos politiques, je vais laisser au médecin le souhait de porter le discours médical et aux politiques le souhait d'assumer, à un moment donné, de dire ce que, au fond, les Français attendent d'un président de la République, fixer un cap et le fixer avec une vraie fermeté. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais vous savez, ne restons pas trop dans l'écume des choses. Dans cette interview, le président de la République a parlé de l'école, il a parlé de l'Europe, il a parlé de notre système de santé. Et ce sont les sujets qui, à mon avis, sont essentiels.
Peut-être acceptez-vous de répondre du coup aux paroles politiques, si ce n'est pas aux paroles d'un médecin. Toute l'opposition a dénoncé un président de la République pyromane qui ne cherche qu'à hystériser le débat, à diviser les Français pour pouvoir faire un coup politique. Vous répondez quoi à ça ?
Moi, j'ai vu la semaine dernière des oppositions qui ne voulaient pas débattre du pass vaccinal. J'ai vu des oppositions totalement divisées, à commencer chez les LR par Valérie Pécresse qui annonce que le pass vaccinal sera voté. Et j'ai vu son groupe parlementaire totalement exploser et se diviser sur ce sujet. Au fond, ce qui compte, c'est quand même l'action de fond que nous portons et pas forcément ce débat-là, mais j'assume parfaitement ce débat-là.
Le texte sur le pass vaccinal, Christophe Castaner, voté donc à l'Assemblée nationale après tant de rebondissements, arrive au Sénat où les sénateurs souhaitent l'amender. Ils demandent que le pass vaccinal soit encadré dans le temps. Ils veulent une date finale si certaines conditions sanitaires sont remplies, ce pass, disent-ils, ne peut pas être illimité dans le temps comme il l'est aujourd'hui. Ont-ils raison sur ce point ?
Il n'a pas vocation à être illimité dans le temps, mais nous n'avons pas vocation à légiférer tout le temps. Surtout, je vois la difficulté pour le Sénat de légiférer. Vous savez, l'Assemblée nationale, la Commission des lois s'est réunie entre Noël et Jour de l'An parce qu'il y avait urgence. On a eu un débat avec nos oppositions pour savoir s'il fallait siéger après minuit. Nous avons terminé jeudi matin à 5h30 parce que nous savions l'urgence. Le Sénat a souhaité
Excusez-moi, Christophe Castaner. Vous dites que c'est difficile de légiférer au Sénat alors que c'est facile à l'Assemblée nationale. On a quand même vu une semaine de coups de théâtre avec l'absence de vos troupes après minuit, mardi soir, pour voter le pass vaccinal.
Nous étions là entre Noël et Jour de l'An. Mardi soir, le moment dont vous parlez, nous avons gagné la totalité des votes parce que nous étions majoritaires dans la totalité des votes. Il y a eu un vote, un seul. Sur le fond, on a systématiquement été majoritaire. Il y a eu un vote, un seul, où il y a une coalition de toutes nos oppositions pour dire « on ne travaille pas après minuit ». C'est tout. Sur la totalité des votes de fond, et le fond est quand même plus important à l'Assemblée que de savoir si on veut travailler ou pas autour de minuit, nous avons gagné ces votes. Mais ce que je disais, c'est que le Sénat n'a pas souhaité travailler sur ce texte vendredi, n'a pas souhaité travailler sur ce texte ce week-end, n'a pas souhaité travailler sur ce texte aujourd'hui. Et donc, il se prononcera dans la semaine, nous discuterons avec le Sénat. Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous faut, sur ce sujet, être le plus réactif possible.
Et sur le fond de la question que je vous posais, un pass ne peut pas être illimité dans le temps. Ont-ils raison de défendre cette position ?
Mais personne n'entend faire du pass vaccinal une mesure permanente. Mais tant que nous serons dans la situation où, le 8 janvier, samedi, il y avait 303 669 cas de Covid dans notre pays, le sujet n'est pas de présupposer la fin, le sujet est de se battre avec toutes les armes possibles pour faire reculer le Covid en France.
Un autre point qui fait toujours débat et les sénateurs doivent se prononcer, c'est la possibilité pour les cafetiers et les restaurateurs d'effectuer des contrôles d'identité en cas de raison sérieuse de penser qu'il y a fraude au pass vaccinal. La défenseure des droits a dit son inquiétude sur le fait de confier une forme de pouvoir de police à des entreprises privées. Est-ce aux restaurateurs ou aux cafetiers d'effectuer un travail de police ?
Vous savez ce qu'on a fait ? On a repris, et d'ailleurs la défenseure des droits s'était prononcée avant que nous modifions la proposition, enfin le projet de loi et la proposition du gouvernement, nous avons repris expressément la formule juridique qui s'applique pour le restaurateur ou le cafetier quand il contrôle un chèque. Et donc on a pris comme référence le code monétaire et financier et exactement la même référence. Personne n'est choqué quand un bistrotier demande sa pièce d'identité à quelqu'un qu'il ne semble pas être majeur avant de lui servir de l'alcool. Personne n'est choqué quand un restaurateur demande pour un chèque une pièce d'identité. C'est exactement le
système
que nous avons retenu.
Donc il faut maintenir cette disposition.
Ah, je pense que les contrôles sont nécessaires face à la diffusion de faux passes et face à l'organisation d'un système qui est un système criminel.
Venons-en à l'école. Plus de 2700 acteurs de l'éducation, des enseignants, des directeurs d'école, des parents d'élèves ont dénoncé la politique sanitaire du gouvernement à l'école. C'était dans une tribune du JDD le 8 janvier. Les demandes, je cite, les demandes répétées de sécuriser classe, cantine, salle de sport n'ont jamais été entendues. Au contraire, le ministre a régulièrement allégé le protocole sanitaire, exposant sciemment les personnels, élèves et familles au virus. Fin de citation. Le gouvernement laisse-t-il aujourd'hui circuler le virus à l'école au détriment des personnels et des familles, comme le dit également ce texte ?
On pourrait dire quoi ? On ferme les écoles ? Certains responsables politiques ont proposé de repousser la rentrée, ce qui veut dire fermer les écoles un peu plus.
Valérie
le
Pécresse.
Choix qui a été fait depuis le début de combat contre la Covid, c'est de faire en sorte que les écoles puissent rester au maximum ouvertes. Parce que les premières victimes d'une fermeture de l'école, ce sont les élèves eux-mêmes. Et quand aujourd'hui on fait le bilan, on constate qu'on a gardé nos écoles deux fois plus qu'en Allemagne, trois fois plus qu'en Italie, ou quatre fois plus qu'aux USA ouvertes, et c'est aussi le résultat de cela. Mais j'entends la colère, j'entends les inquiétudes, j'entends
les
angoisses. Non mais je les entends parfaitement. J'entends même la fatigue de celles et ceux, et en particulier les directeurs d'établissements qui doivent gérer cette difficulté. J'entends aussi certaines récupérations politiques sur ce sujet. Il n'empêche que nous devons tout faire pour maintenir les écoles ouvertes, alléger les protocoles. Ça n'est pas diminuer la protection, c'est faire en sorte qu'on les maintienne ouvertes.
On le voit quand on est parent d'élèves et qu'on va chercher nos enfants. Directeurs d'école, enseignants dénoncent une désorganisation totale depuis une semaine, depuis la rentrée de janvier. Ils disent qu'ils ont de vraies difficultés à faire classe sereinement et même à faire classe tout court. Tous les syndicats de l'éducation nationale, y compris les chefs d'établissement et les inspecteurs, ce qui est rare, appellent à une grève jeudi prochain. Ils disent que c'est trop compliqué, c'est trop difficile à appliquer tous ces protocoles sanitaires. Vous leur dites quoi ?
Mais je leur dis d'abord que je comprends la difficulté d'application, je comprends les angoisses. En plus, on est face à un sujet, le Covid, qui est un sujet qui est anxiogène par nature. Mais donc, c'est ensemble qu'on doit avancer. Par exemple, cette semaine, il y aura 11 millions de tests qui seront disponibles sur le marché pour renforcer encore plus l'accompagnement des enfants dans les écoles, et pas que des enfants, des adultes aussi. Mais j'entends parfaitement d'abord le questionnement, j'entends la critique et j'entends surtout la fatigue des personnes qui gèrent les établissements et nous devons les accompagner au maximum. Mais si le choix c'est, d'un point de vue sanitaire, c'est la meilleure des protections, fermer les écoles, nous devons tout faire pour garder les écoles ouvertes.
Elle avait proposé, Valérie Pécresse, de reporter d'une semaine la rentrée scolaire de janvier. Voici ce qu'elle dit, ils ont répondu non, donc le gouvernement, non sans réfléchir, avec un réflexe pavlovien, car c'est l'opposition qui l'avait proposé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce qu'une semaine de plus n'aurait pas permis d'organiser ce qui est aujourd'hui désorganisé ?
une semaine de plus. Et la semaine suivante, on constate les 303 000 cas que j'évoquais il y a quelques instants. Et on rajoute une semaine. Et à quel moment on s'arrête? Certains pays ont fait le choix de fermer totalement. Je citais les États-Unis avec nous sommes 4 fois moins fermés qu'aux États-Unis. Je pense que c'est une mauvaise solution.
Donc même une semaine
Non, mais pourquoi une semaine et pourquoi ça se sera arrêté au bout d'une semaine?
Parce que c'était après les fêtes. C'était après le. Elle jugeait que comme il y avait eu beaucoup de brassage de population à Noël et au Réveillon, qu'on pouvait passer une semaine. C'était ça la réflexion.
La réflexion est parfaitement entendable. Voilà. Quand il a fallu le faire, nous avons assumé de fermer les établissements scolaires. Et donc, il n'y a pas de sursupposition de question de doctrine, ni même du fait que ça vienne de l'opposition. On a su le faire avant même que Valérie Pécresse ne soit candidate à la présidence. Mais mon sentiment est qu'il faut, aux côtés des enseignants, aux côtés des élèves, aux côtés des parents, qui sont aussi directement impactés quand on décide de dire « bon, on ferme pendant une semaine », les parents sont aussi impactés dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle.
Bien sûr.
On doit tout faire pour garder l'école ouverte. On doit investir massivement sur les tests, sur la protection. Et il faut alléger le protocole chaque fois que les autorités sanitaires le conseillent et pas en fonction des opportunités politiques.
Vous parlez des tests. Teste-t-on trop, titrait Le Parisien ce matin. Près d'1,5 million de tests sont réalisés chaque jour en France. Le système arrive à saturation. Il suffit de jeter un œil aux files d'attente interminables devant les laboratoires ou les pharmacies. Des scientifiques appellent à prioriser les tests, comme c'est le cas en Israël, où ce sont les plus de 60 ans qui ont un accès privilégié au PCR. Est-ce qu'il ne faut pas changer de méthode sur cette question?
Écoutez, avant de changer de méthode, renforçons-la. Et donc, effectivement, pourquoi il y a une saturation? Parce qu'il y a trop de demandes de tests et pas assez de points d'ouverture. Le gouvernement a annoncé ce week-end que plusieurs centaines de centres de dépistage et de tests seront ouverts dans les jours qui viennent. Des professionnels nouveaux auront la possibilité de monter en puissance sur ce sujet. Je crois que la politique de tests, elle est essentielle. Et donc, nous devons, face à la difficulté, l'améliorer encore, c'est ce que nous faisons.
On file au standard, on nous attend Brice, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Merci de prendre ma question. Voilà, je vais juste mettre le contexte de ma question, hein. C'est que moi je suis non vacciné. Je suis non vacciné parce que j'ai perdu totale confiance en nos gouvernants, et je parle des gouvernements dans le monde entier, hein, vu que en fait les doctrines sont les mêmes à peu près. Hein. Mais j'ai perdu totale confiance quand on a mis les masques sur les enfants toute la journée. Je me suis dit là c'est pas possible, et quand j'ai vu que les urgences pédopsychiatriques avaient explosé, bah je me suis dit que j'avais eu raison de retirer ma fille de l'école et que maintenant je fais l'école à la maison.
Alors, et donc, voilà pour le contexte, votre question.
Voilà, du coup, ça explique pourquoi je suis non vacciné. Et puis maintenant, je voulais demander à Monsieur Castaner, mais je connais d'avance sa réponse, hein, est-ce qu'il me considère aussi maintenant comme non citoyen, alors que tout simplement, si je suis pas vacciné, c'est parce que j'ai peur de vous, en fait. Et donc, vous voulez forcer quelqu'un qui a peur de vous. Et pourtant, il faudrait essayer de me convaincre.
Vous avez peur, c'est ce qu'on a entendu, des exécutifs, des politiques en général, hein, c'est ça, vous l'avez dit, en France comme dans le monde.
Voilà, par manque de confiance, qui est maintenant une défiance totale, en fait, parce que vous nous avez trop menti. Vous voyez, j'en tremble de la voix tellement vous nous avez menti et que maintenant vous nous insultez. J'en pleure presque, en fait. Et je trouve que c'est incroyable que ça passe. En fait, que le président de la République a dit ça a fait des remous. On en parle encore un peu et puis là, je suis en train d'en parler. Mais
on entend,
ça passe.
On entend votre émission.
Il nous insulte.
On entend et votre émotion, Brice. On entend votre émotion et on transmet évidemment votre intervention à Christophe Castaner.
Vous savez, Brice, moi j'entends le doute. Mais là, en l'espèce, vous avez un doute contre l'ensemble des responsables institutionnels, politiques du monde entier. Mais vous avez un doute aussi vis-à-vis de l'ensemble des responsables sanitaires. Vous avez un doute contre la profession médicale qui, dans ce pays, est la première à dire « vaccinez-vous ». Dans ce pays, est la première, et pas que dans ce pays, la première à dire « mettez des masques ». Et si nous avons suggéré et fait en sorte que les enfants aient des masques dans les écoles, c'est parce que les professionnels de santé l'ont dit. Alors, il y a un moment donné, on peut décider d'avoir confiance qu'en soi-même, et seulement en soi-même. Vous pouvez décider de ne plus avoir confiance dans l'école et penser que l'éducation de votre enfant à la maison est mieux. C'est votre choix. Mais à un moment donné, on est dans une société collective. Vous parlez de citoyenneté, la citoyenneté elle est faite de droits et de devoirs. Et dans ces droits et de ces devoirs, on a le droit à l'école,
mais un tel niveau
mais on a
de défiance,
droit à la confiance.
Ça vous pose pas, en tant que vous êtes député tout de même, ça vous pose pas un vrai problème philosophique?
Mais vous savez, il y a à peu près un habitant sur deux dans le monde qui a été vacciné. Et si il y a une moitié qui ne l'a pas été, c'est qu'elle n'a pas encore eu accès. Brice n'est pas représentatif de la société française. Brice n'est pas représentatif des auditeurs de France Inter. Et donc je l'entends. Je respecte parfaitement son propos, mais je lui dis, on peut se satisfaire et dire c'est la faute de tous les autres et j'ai confiance dans plus personne et réduire à la fin sur une critique d'Emmanuel Macron ou de Christophe Castaner, mais c'est un choix. Par contre, la défiance vis-à-vis de l'ensemble des autorités de santé, voire même du médecin personnel de Brice, et je suis sûr que s'il lui demande, son médecin, qu'est-ce que je dois faire face à la vaccination, son médecin va lui dire vaccinez-vous.
Mais il y a aussi une défiance vis-à-vis des élus. Vous avez vu ces images hier soir de ce député La République En Marche de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Clairaut, qui s'est fait agresser à son domicile. Jeudi dernier, c'était Yaël Braun-Pivet, la présidente LREM de la commission des lois, qui a relayé un courrier de menaces de mort contre elle et sa famille absolument horrible. Comment vous expliquez cette hausse des violences? Que faites-vous pour lutter aussi contre cette hausse des violences et protéger les élus? Et enfin, est-ce qu'une phrase comme « j'ai envie d'emmerder les anti-vaccins », ça ne va pas provoquer encore plus de violences vis-à-vis de vos élus?
Vous savez, moi je condamne les violences, mais je ne rajoute pas un « mais » qui pourrait les justifier. Et donc, je veux bien qu'on m'explique que ce soit la faute d'Emmanuel Macron s'il y a des atteintes contre les élus.
Il n'y a aucun mais dans ma bouche.
C'est que je sais, c'est qu'il y a eu, sur l'année 2021, de ceux que moi j'ai pu recenser, 322 menaces contre des députés, dont les deux tiers contre des députés de mon groupe de La République En Marche, mais pas seulement, y compris des députés de nos oppositions qui sont menacés. Et puis, ce que j'ai vu, notamment pour Stéphane, avec qui j'ai échangé cette nuit, c'est la lâcheté. La lâcheté face à un homme seul, un homme qui était pacifique, qui était sans défense et qui a fait face et qui est sorti, qui a voulu parler, qui les a invités à parler. Ils ont refusé. Ils lui ont jeté, c'est une spécificité locale, des algues à la figure avec l'agression et l'agressivité que vous avez vue. C'est cela que je condamne. Nous avons toujours été ouverts au dialogue. Je suis député, je suis ouvert au dialogue dans ma circonscription, sur mon territoire. Mais à un moment donné, le dialogue, ça implique que l'on soit deux. Je reviens sur la question de Brice, parfaitement légitime, mais je ne suis pas convaincu, et Brice l'avait dit, de toute façon, je connais déjà votre réponse. Donc avant de poser la question, ma réponse est considérée comme inopportune.
On file au standard où Benjamin va ouvrir, si j'ai bien compris, une page politique. Bonjour et bienvenue.
Oui, pour rappel, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 5 villages de 1000 habitants. Hein. Donc si ça barde là-bas comme ça, c'est un peu inquiétant. Et d'ailleurs, Monsieur Castaner, avez-vous conscience que ça va être très très compliqué pour les élus députés LREM sortants de se représenter sous cette étiquette en 2022?
Ah, vous pensez déjà aux législatives après la présidentielle, c'est ça?
Exactement. Gagnant ou perdant pour le président.
Merci Benjamin pour cette question. Christophe Castaner vous répond.
Pourquoi Benjamin, ce serait compliqué de faire une campagne qui va au plus près des Français sur les territoires? Je suis un élu rural, j'irai dans les villages comme j'ai l'habitude d'y aller et je sais que les députés de la majorité le feront aussi. Alors il y aura certainement une toute petite minorité de Français qui contesteront le droit à ces députés de se représenter, voire d'être élus. Il y aura une grande majorité de Français qui voteront et qui peut-être feront le choix de voter des députés de la majorité présidentielle. C'est ainsi, c'est le fait démocratique et moi je préfère toujours le débat démocratique à la violence, voire même à la condamnation avant même qu'il soit candidat. Et non, Benjamin, je ne crois pas qu'il sera difficile de faire campagne pour la majorité présidentielle et pour Emmanuel Macron s'il se présente.
Il n'y a pas que la crise sanitaire, Christophe Castaner. Vous l'avez dit, le président de la République a parlé de beaucoup d'autres choses dans cet entretien du Parisien. Il a esquissé un élément de programme sur les droits de succession. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut augmenter les droits de succession à tout va. Au contraire, a-t-il dit, notamment pour les patrimoines modestes. Et il veut faciliter les choses, c'est ce qu'il laisse entendre s'il avait un deuxième mandat. Vous affirmiez l'inverse, vous, en 2018, on a retrouvé ce que vous disiez à l'époque, vous vouliez une réflexion sans tabou pour une refonte de la fiscalité sur les successions, pour, je vous cite, corriger les inégalités de naissance. Vous n'êtes pas d'accord avec le président sur cette question-là?
Alors, je suis totalement d'accord avec le président, y compris sur le constat que fait le président. En 1960, il y avait à peu près 30% du patrimoine des Français qui était lié à la succession. Aujourd'hui, c'est 60%. Et donc, ça conforte des inégalités qui sont que c'est l'héritage qui fait le patrimoine des Français. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui, par exemple, vous obligent, avec la quotité disponible, à ce qu'un de vos enfants, que vous n'avez pas vu depuis une dizaine d'années, depuis 20 ans, ait les mêmes droits qu'un autre de vos enfants qui vous accompagne jusqu'à la fin de votre vie. Mmh. Aujourd'hui, on hérite en moyenne à 57 ans. Au début du siècle, c'était 30 ans. Donc oui, je suis favorable à une réflexion sans tabou qui favorise la donation du vivant par les parents sur le capital qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, on a la possibilité de donner pour chacun de ses enfants 260 000 euros tous les 15 ans. Peut-être que l'on peut revoir cela. Et je préférerais toujours une donation dynamique, volontaire, choisie, voulue par les parents, en lien avec les enfants, plutôt qu'un carcan qui fait que sur la base de l'histoire de la succession qui remonte à la Révolution française, il n'y a plus de liberté et qu'on hérite aujourd'hui de façon assez limitée dans un petit cénacle de Français.
Vous n'étiez pas favorable en 2018 à augmenter les impôts sur la succession ?
Alors si vous reprenez toute la conférence de presse de l'époque, vous remarquerez que j'ai même dit que le volume de fiscalité sur les successions était trop élevé et j'étais plutôt favorable à le baisser. C'était ce que j'avais précisé. Ensuite, il y a eu un emballement médiatique qui a réduit le propos que j'avais pu tenir à la seule question de l'augmentation des droits de succession, alors que je n'avais à aucun moment prononcé ces mots.
Vous n'y êtes pas
ça,
favorable.
C'est le propre de
l'angle.
Je pense que la fiscalité française sur les successions est au-dessus de la moyenne européenne et qu'il n'est pas nécessaire, absolument pas nécessaire de l'alourdir, mais qu'à l'inverse, on peut s'interroger sur le fait que quand on héritait à 30 ans, on construisait sa vie avec l'héritage. Quand on héritait à 57 ans, on n'est plus dans le même schéma.
L'extrême droite est à plus de 30% d'intention de vote dans les sondages, si l'on additionne Christophe Castaner, les scores d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Dans une chronique au Monde ce week-end, l'économiste Thomas Piketty pointe la responsabilité d'Emmanuel Macron. Je le cite rapidement. Le macronisme a déplacé une bonne partie des électeurs et des élus du centre-gauche vers le centre-droit. S'étant fait voler sa plateforme économique, la droite s'est lancée dans une course-poursuite avec l'extrême droite. Le gouvernement macroniste, ne sachant plus comment s'adresser aux classes populaires, s'est mis à singer la droite la plus extrême. Qu'en pensez-vous ? Emmanuel Macron porte-t-il une responsabilité dans la droitisation ou, à écouter Thomas Piketty, l'extrême droitisation du paysage politique ?
Le 12 juillet 2016, quand Emmanuel Macron fait son premier meeting à la Mutualité, il se fixe un objectif. À ce moment-là, personne dans la presse ne pensait que c'était possible ni même crédible. Faire en sorte que l'extrême droite ne soit pas au premier tour de la présidence de la République en tête. C'était écrit, c'était inscrit. Il s'est levé contre cela. Il a fait en sorte qu'effectivement Marine Le Pen ne soit pas première et que Marine Le Pen soit battue. Est-ce que vous pensez une seconde que quelqu'un comme moi, qui ait construit son combat politique contre l'extrême droite, aujourd'hui peut approuver le propos de M. Piketty qui, au motif que la droite court vers l'extrême droitisation de sa pensée, ce serait la faute d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est un peu facile.
Il décrit une tectonique des plaques.
Oui, mais c'est un peu facile d'expliquer que tout est la faute d'Emmanuel Macron. Je pense qu'à un moment donné, ceux qui ont été en responsabilité depuis 30 ans doivent aussi s'interroger.
Vous parlez de ses engagements en 2016. Il a pris un autre engagement le soir de sa victoire au second tour. C'était au Louvre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses paroles où il avait dit avec mon mandat, à la fin de mon mandat, eh bien, je vais donner envie aux Français de ne plus voter pour l'extrême droite. Je ferai baisser l'extrême droite en France. On est à la fin du mandat. L'extrême droite n'a jamais été aussi haute.
D'abord, attendons l'élection présidentielle pour se faire une opinion définitive. Mais c'est vrai que c'est un combat sur lequel on ne réussit pas en quelques années. C'est un combat sur lequel il faut aller plus loin encore. Quand vous avez des femmes et des hommes qui se sentent victimes de la mondialisation, ce combat contre les effets négatifs de la mondialisation, il ne se gagne pas d'un claquement de doigts.
Est-il démocratiquement acceptable qu'Éric Zemmour ne puisse pas, faute de parrainage suffisant éventuellement, se présenter à l'élection présidentielle ? Valérie Pécresse estime que ça n'est pas démocratique et que le problème vient du fait que les parrainages d'élus sont désormais publics et non plus anonymes. Elle dit vouloir changer cette règle pour les candidats qui ont plus de 10% dans les sondages. Quelle est votre position sur ce point ?
D'abord, respecter la Constitution et la loi est toujours démocratique. Est-ce qu'il faut la changer ? Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner plus de liberté de candidature, mais nous n'allons pas modifier le texte par opportunisme pour tel ou tel candidat à l'approche de l'élection.
Donc ça bougera mais une chose pas est sûre, pour, c'est que, pour 2022 ça
Mais une chose
pas.
Est sûre, c'est que je ne suis pas d'accord avec Mme Pécresse. Moi, je crois à la transparence. Et donc, il ne s'agit pas de cacher les parrainages pour garantir les parrainages. Non, il faut s'interroger sur le fait de savoir s'il ne peut pas y avoir d'autres formes de parrainage que celles qui existent aujourd'hui. Mais dans tous les cas, dans la transparence. Moi, je trouve que préférer l'opacité à la transparence est toujours un défaut.
Deux petites questions encore de politique. Vous l'avez sans doute vu ce week-end, Christiane Taubira a annoncé qu'elle accepterait le verdict de la primaire populaire. L'ancien socialiste que vous êtes, a-t-il un commentaire à faire sur cette nouvelle possible probable candidature ?
Bah, ça va faire 6, ça va faire 7, ça va faire 8 candidatures à gauche. Je pense que c'est dommage. Elle avait été un des éléments de la division en 2002. Madame Taubira, manifestement, elle souhaite poursuivre.
Dernière question, où est Édouard Philippe ? Vous avez des nouvelles ?
Ben, il a fait un média important, concurrent du vôtre la semaine dernière sur France 2 et il a une parole politique forte. Et donc oui, j'ai des nouvelles, mais les Français aussi.
Vous attendez qu'il joue un rôle important dans cette campagne parce qu'on
Moi, je le souhaite, parce
peu.
Que je sais ce qu'il apporte en termes d'idées, en termes d'énergie, en termes de volonté.
Allez, on finit au standard avec à nouveau une question sur le sanitaire, puisqu'il y en a de très nombreuses ce matin. Marc, allez-y rapidement, bonjour.
Merci. Oui, merci de prendre mon appel. Alors, je vais essayer d'être rapide. Tout d'abord, je vous remercie aussi pour la qualité de toutes vos émissions sur France Inter.
Merci.
Alors, tout d'abord, en tant qu'élu, je tiens globalement à dire à M. Castaner, que je salue, mon soutien dans cette période compliquée. Pour être rapide, je suis vacciné, j'ai un schéma vaccinal complet avec mes 3 injections et je suis par ailleurs maire d'une petite commune et enseignant. Ma question est simple, pourquoi à l'instar de l'Italie, ne vaccine-t-on pas obligatoirement les plus de 50 ans, puisque ce sont bien ces personnes dont je fais partie depuis peu, qui, si j'ai bien compris, font peser un risque d'engorgement sur les services de santé? Pourquoi embête-t-on toute une partie de la population qui n'est pas concerné par les formes graves,
que
et
de
notamment
cibler
la jeunesse.
Sur les, plutôt que cibler sur les populations les plus à risque. Merci Marc pour cette question. Vaccination obligatoire ou très ciblée, beaucoup de questions sur l'application aussi. Quelques mots, Christophe Castaner.
Deux remarques pour remercier Marc de son engagement, de ses propos, mais de son engagement, à la fois comme élu local et à la fois comme enseignant. Et ensuite, sur cette question de la vaccination obligatoire, le débat a eu lieu, nous nous sommes posés. La question, c'est la sanction. Une chose est sûre, c'est que les pays qui jusqu'à présent ont choisi la vaccination obligatoire n'ont pas un taux de vaccination supérieur au nôtre en France. Donc ça n'est pas la garantie que ça marche. Et si vous dites vaccination obligatoire, quelle est la sanction? L'amende, l'amende financière, avec quelquefois des femmes et des hommes qui ne sont pas en mesure de payer, double peine. La sanction, l'emprisonnement. Et il faut aller jusqu'au bout de la logique, et on voit bien qu'aujourd'hui, la bonne logique, c'est celle de vacciner au maximum, dans le cadre que nous mettons en place du pass vaccinal, et d'aller vers toutes celles et tous ceux, et les personnes les plus âgées en particulier.
Christophe Castaner, merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.